Ferons une lecture dans l'Apocalypse, chapitre 2, verset 18. Écris à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je vous rendrai à chacun selon son œuvre. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez, retenez-le, jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. C'est donc la quatrième lettre. Elle est adressée à l'église de Thyatire. La ville de Thyatire est située au sud-est de Pergame, à 65 km environ. Mettons la distance de Toulon à Marseille. On ne parle de cette église que dans ce passage que nous avons lu ensemble. Et acte 16-14 nous parle de Lydie, qui était marchande de pourpre et qui était originaire de Thyatire. Thyatire n'a pas bonne réputation dans l'histoire ancienne. Thyatire est qualifiée de ville sans honneur. Eh bien, le Seigneur a établi là, dans cette ville sans honneur, une église, un peuple qui lui appartient. Il y avait à Thyatire, nous dit-on, un temple consacré à Apollon, le dieu polyvalent, disent certains, fils de Zeus, de la mythologie grecque. C'est la lettre la plus longue des sept, adressée à la moins connue des églises. Ceci étant dit, maintenant soulignons ce que le Seigneur dit à cette église. Il se révèle d'abord comme le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Le Fils de Dieu, l'ange l'avait dit à Marie, il sera appelé Fils de Dieu. Certes, le Fils de Dieu est venu pour sauver. Et ceci aussi avait été dit par l'ange, cette fois-ci à Joseph. L'ange lui avait dit en effet, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Mais ne soyons pas, quant à nous, perfides au point de cacher nos péchés derrière une façade de spiritualité, N'oublions pas que le Seigneur a des yeux comme une flamme de feu. Ésaïe fulmine et s'écrie, Ésaïe 29, 15, « Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent « Qui nous voit et qui nous connaît ?» Eh bien, précisément, celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Il voit et il connaît. Le prophète Habacuc, de son côté, nous dit, Habacuc 1, 13, « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. » Frères et sœurs, réalisons que les yeux du Seigneur scrutent les coins les plus sombres et les plus cachés de nos cœurs. Un certain jour, le Seigneur Jésus a dit à Nathanaël, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu, Seigneur ? Avant que Philippe t'appelât, je t'ai vu sous le figuier. » Heureux Nathanaël, mais chez combien d'autres le Seigneur trouve la fraude. N'oublions pas non plus Jean 5, 22, où il est dit, le Père a mis tout jugement au Fils. Le salut d'abord, certes, le Seigneur est venu pour sauver, mais en dernier lieu, le jugement. C'est de cela que parlent justement les pieds, semblables à de l'airain ardent. Il jugera avec justice et sans faiblesse. Pour qu'un juge puisse rendre un jugement équitable, il doit instruire l'affaire, connaître le ou les mobiles, les circonstances, les moindres détails, le caractère, la vie des personnes incriminées. Or, le Seigneur est précisément celui qui sait et qui connaît. Il a des yeux comme des flammes de feu. Pensons-y et tremblons, car Pierre dit, 1 Pierre 4, 17, le jugement commence par la maison de Dieu. Et chacun d'entre nous, par chacun d'entre nous, et je dirais peut-être même par les serviteurs en premier. L'église de Thyatire n'est pas une église morte. Elle est vivante. Et le Seigneur le connaît. Hein, puisqu'il dit, je connais tes œuvres. Or, les morts ne font pas d'œuvres. Je connais ton amour, or les morts ne peuvent pas aimer. Je connais ta foi, or les morts n'ont plus besoin de croire ou de ne pas croire. Et je connais ton fidèle service, les morts ne peuvent pas servir. Je connais ta constance, et n'en parlons pas, les morts ne connaissent point toutes ces choses. Et même cette église n'a pas faibli, elle n'a pas abandonné son premier amour et sa foi, puisque le Seigneur ajoute, tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Son zèle, loin de baisser, a redoublé d'ardeur. Cependant, derrière les excellentes œuvres et le comportement spirituel de Thyatire, l'ennemi est arrivé à s'infiltrer. Et c'est ce que l'ennemi tente de faire, s'infiltrer. Il y a là une femme qui se dit prophétesse, inspirée, comme pour Éphèse que nous avons lu, certains se disaient apôtres, et qui n'étaient que des menteurs. L'ennemi imite ce que Dieu a institué. Et souvent, dans les églises, il y a des gens qui se disent spirituels. Je dirais même super spirituels. Ils ne marchent qu'avec des révélations. Frères et sœurs, je ne suis pas contre les révélations, je suis pour. Mais je marche d'après la parole du Seigneur, avec la parole du Seigneur. Et quand le Seigneur veut me donner des révélations, merci Seigneur, à l'avance. Retenez deux passages de la parole du Seigneur. Soulignez dans vos Bibles si vous n'avez pas bonne mémoire. Paul dit, 1 Corinthiens 4, verset 6, la seconde partie de ce verset, « Que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. » À ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. L'apôtre Jean nous dit, 2 Jean, verset 9, « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a point Dieu. Il est suffisant de demeurer dans la parole du Seigneur et ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. » Répétons, une déviation doctrinale est ce qu'il y a de plus grave. De même que la doctrine des Nicolaïtes est assimilée et trouve son type en Balaam, de l'Ancien Testament, de même, l'enseignement de cette femme trouve son type en Jézabel, également de l'Ancien Testament. Qu'a fait cette femme, Jézabel? Elle a introduit en Israël, par la séduction, l'idolâtrie, là où il y avait le culte de l'unique vrai Dieu. Jézabel a remplacé l'Éternel par Baal et Astarté, et les vrais prophètes de l'Éternel par les faux prophètes de Baal et d'Astarté, ce qui a conduit à l'impudicité. Ce mot est sévère, ne trouvez-vous pas? Disons à l'infidélité envers l'Éternel et ce qui a produit des gens qui clochent des deux côtés. Jézabel se dit prophétesse, inspirée de Dieu, c'est faux. Elle ne pourra que prophétiser le mensonge. Que faire de cette femme et de ceux qui se sont laissés séduire? Le Seigneur en veut à Jézabel, mais à ceux qui la tolèrent, les exterminer, car tes yeux sont trop purs pour voir le mal, mais auparavant, tenter de les sauver. Pour cela, le Seigneur dit, je lui ai donné du temps à elle en premier, afin qu'elle se repentît, parce qu'elle est après responsable. Le Seigneur lui a donné du temps. Le temps est précieux, il ne faut pas le gaspiller. Et nous avons dit une fois, l'Éternel donne un instant à la fois. Quand il nous donne l'instant qui suit, il nous retire le précédent. Un de nos poètes a dit, « Chaque seconde est un pas vers la mort ». Et le dernier, c'est la mort. Et le psalmiste ajoute, psaume 90, verset 12, « Enseigne-nous à bien compter nos jours. » Que nos jours soient au service de Dieu. Nous ne pouvons pas arrêter le temps, mais l'éternité est promise. C'est justement la victoire sur le temps. Ainsi, frères et sœurs, le Seigneur nous donne aussi du temps. Rachetez le temps, nous est-il dit dans la parole du Seigneur encore. Ne vous attardez donc pas pour satisfaire notre Dieu. Il nous donne du temps pour nous repentir aussi, si nous avons besoin de repentance. Il nous donne du temps pour pardonner. Le Seigneur le disait ce matin, nous y invitait. Du temps pour témoigner, du temps pour travailler, du temps pour nous sanctifier, du temps pour progresser dans la vie spirituelle. Employons bien ce temps pour n'avoir point à regretter et dire dans la suite, si j'avais su. Frères et sœurs, le Seigneur nous donne du temps, employons bien ce temps à la gloire de notre Dieu. Mais Jézabel ne veut pas se repentir de son impudicité. Jézabel s'entête, ne nous entêtons pas. Et pourquoi donc ce mot affreux, impudicité? C'est que ceux qui dévient la doctrine et l'enseignent devraient avoir honte et rougir, comme s'ils étaient impudiques. C'est très grave de dévier la doctrine. Le Seigneur dit, je vais la jeter sur un lit. Le lit du péché deviendra lit de souffrance et de châtiment. Le Seigneur veut aussi envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle. C'est dans le domaine spirituel, probablement. Encore et pour la dernière fois, nous trouvons l'ultime invitation du Seigneur à la repentance. Quel amour, que l'amour de notre Dieu. Après avoir menacé en effet, le Seigneur dit, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres, et Jézabel et ceux qui la suivent. La patience de notre Dieu est vraiment extrême, et le Seigneur l'a exprimée dans la parabole qu'il nous a donnée. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vient chercher du fruit et il n'en trouva point. S'adressant au vigneron, il lui dit, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il inutilement la terre ?» Et le figuier lui dit, « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour, j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir, il portera du fruit. Sinon, tu le couperas. » Et c'est ainsi que nous trouvons dans le passage que nous avons lu, « Enfin, je ferai mourir de mort ses enfants. » C'est-à-dire tous ceux qui se sont liés à Jézabel et à sa doctrine. Je vous fais remarquer que ce ne sont que les fautifs qui sont appelés à la repentance, c'est logique. Ce sont les fautifs qui sont jugés et châtiés, mais non l'Église entière de Thyatire. Le but de ce jugement sévère, de ce châtiment, est d'apprendre à toutes les églises que le Seigneur et celui qui sonde les cœurs et les reins, et c'est lui qui rendra à chacun selon ses œuvres. Ceci est pour nous. Mais à Thyatire, il y avait des gens sages, donc qui n'acceptaient pas cette doctrine, qualifiée par ceux-ci de profondeur de Satan. Ils disaient probablement, nous connaissons, nous, les profondeurs de Satan. Les Corinthiens, eux, ils connaissaient les profondeurs de Dieu. Nous devons connaître les profondeurs de Dieu. Mais voici un passage de 1 Corinthiens 2, versets 10 et 11. Voici ce que Paul dit. L'Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Nous avons l'Esprit de Dieu, je pense. Lequel des hommes, ajoute-t-il en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est par l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est par l'esprit de Dieu. Résumons, l'esprit de l'homme sonde les choses qui concernent l'homme. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, sonde les profondeurs de Dieu. Et puisque ces gens disent qu'ils connaissent les profondeurs de Satan, c'est par l'Esprit de qui ? Par l'Esprit de Satan. Et voyez combien nous avons besoin de faire attention. Prenez garde, frères et sœurs, une église qui trahit la doctrine, un enfant de Dieu, un croyant qui trahit la doctrine, gaspille rapidement ses possibilités spirituelles comme l'enfant prodigue qui a gaspillé son héritage et tombé dans l'indigence. Quelquefois, ceux qui s'égarent disent « Ah, mais je suis toujours sous l'onction et je parle toujours en langue. » Eh bien, ça ne durera pas longtemps. Ils sont en train simplement de gaspiller ce que le Seigneur leur a donné. Et ce n'est qu'un temps de patience de la part de l'Éternel. Et la patience de Dieu a un terme. C'est pourquoi nous devons veiller. Jézabel séduisait les serviteurs de l'Éternel. Mes esclaves, est-il dit littéralement, en disant qu'elle était prophétesse inspirée, en enseignant l'impudicité, c'est-à-dire le péché, l'infidélité envers l'Éternel. Elle incitait à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Elle invitait à l'idolâtrie. Le Seigneur a prévenu, ne nous étonnons pas. Luc 17, 1-3. Il est impossible qu'il n'arrive des scandales. Mais malheur à celui par qui les scandales arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mît à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même, ajoute le Seigneur. Le chef séducteur, c'est Satan. Quel sort lui est-il réservé ? Apocalypse 12, verset 9. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité. Quel sort a été le sort de Jézabel, la séductrice de l'Ancien Testament? Eh bien, le même, en effet, 2 Rois 9:30 nous raconte ce qui s'est passé. Je résume. Lorsque Jéhu entra dans Israël, Jézabel de l'Ancien Testament mit du fard à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. Probablement qu'elle voulait séduire Jéhu. Elle est arrogante. Elle voulait peut-être aussi tenir tête à Jéhu. Mais Jéhu, s'adressant aux eunuques qui se trouvaient là et qui étaient pour lui, ordonna qu'on la jetât en bas. Et ces eunuques le firent. Satan fut précipité parce qu'il est le séducteur. Jézabel fut précipitée parce qu'elle est la séductrice. Les rebelles seront précipités dans le feu de la Géhenne cette fois-ci. Apocalypse 21:8. Pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, tous les menteurs, leur part sera dans l'étang de feu et de soufre qui est la seconde mort. Voyez donc, le chef séducteur est précipité, Jézabel l'est, et les rebelles qui seraient tentés d'entraîner à leur suite dans l'erreur, eh bien, n'ont d'autre lieu que le feu de la géhenne où ils seront précipités. L'apôtre Paul est très, très sévère. Aux Galates, Galates 1, 8, il dit, « Quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. » Et voyez combien il menace ceux qui prêcheraient un autre évangile, ou bien alors un évangile déformé, qu'il soit anathème. Il place sous la malédiction. Souvenez-vous de Josué qui fit de même pour celui qui construirait Jéricho. Et ce que Josué avait prédit est arrivé. Et la menace de Paul également arrivera pour ceux qui, sans plus faire de cas, seraient tentés de tordre l'enseignement de l'Évangile, de prêcher en quelque sorte un autre évangile. Mais laissons tous ces infidèles, et maintenant le Seigneur s'adresse aux fidèles, et le Seigneur leur dit, Apocalypse 2, 24, donc ceux de l'église de Thyatire, « Je ne mets sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. » Je ne mets sur vous, littéralement, je ne jette sur vous d'autres fardeaux. Nous avons pris sur nous-mêmes, librement, le joug du Seigneur. Or, son joug est doux et son fardeau léger. L'Évangile, frères et sœurs, est notre salut. L'Évangile est notre consolation. L'Évangile est notre espérance. Et c'est pourquoi nous voulons garder l'Évangile jusqu'au retour du Seigneur lui-même. Le Seigneur promet de donner autorité à ses fidèles sur les nations, une autorité semblable à la sienne. Ceci est décrit en des termes encore très forts dans le passage que nous avons lu ensemble. Et enfin, le Seigneur dit encore à cette église, « Et je te donnerai l'étoile brillante du matin. » C'est-à-dire, il les assure de sa présence. Puisque l'étoile brillante du matin, c'est lui-même. Apocalypse 22, 16, vous le lirez. C'est pourquoi, frères et sœurs, tenons donc ferme ce que le Seigneur nous a donné. Et tenons ferme jusqu'à son prochain retour. Mais le Seigneur dit, je viens bientôt. Et nous lui disons, Amen Seigneur, viens, Amen. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons de nous avoir donné ta bonne parole qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Elle est la vérité. C'est ta sagesse exprimée. C'est pourquoi, Seigneur, nous te remercions. Car la vérité seule est capable de nous affranchir. Veuille nous accorder la sagesse d'en haut, afin que nous ayons du discernement, et que, Seigneur, loin de nous attacher aux paroles agréables, aux paroles flatteuses, Seigneur, que nous nous attachions à ta seule parole, la vérité. Seigneur, ce n'est point en vain que ta parole a été faite chair et a habité parmi nous. C'est son enseignement que nous voulons recevoir et retenir. Veuille en cela nous aider, en mettant en chacun d'entre nous le vouloir et le faire. Nous savons en qui nous avons cru, c'est pourquoi nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous et pour tout ce que tu feras encore. Que nos vies te soient agréables, que ton nom soit seul glorifié. Amen.